Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromić z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Maria Afonso.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. La Lettonie a débuté jeudi dernier sa présidence de l'Union européenne. Pour ce petit pays balte de 2 millions d'habitants, le choc de la crise financière a été aussi violent que le rebond a été rapide et impressionnant. Le 1er janvier toujours, la Lituanie est devenue le 19e État membre à avoir adopté l'euro. La Lettonie, sous sa présidence, veut une Europe compétitive, une Europe numérique, une Europe engagée. L'agenda numérique est-il l'une de ses priorités ? La Lettonie est-elle bien préparée ? Quant à la Lituanie, quelle est son opportunité à entrer dans la zone euro ? Pour répondre à ces questions, nous serons avec Philippe Perchoc, enseignant-chercheur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, en Belgique. La Lettonie et la Lituanie sont à l'honneur en ce début d'année 2015. Depuis jeudi dernier, la Lettonie préside le Conseil de l'Union européenne et ce pour 6 mois. C'est aussi le 1er janvier que l'euro est devenu la monnaie de la Lituanie. La Lettonie a beaucoup souffert de la crise et pourtant le pays a réussi à retrouver son niveau d'avant-crise avec un taux de chômage en dessous des 9%. Notre invité, Philippe Perchoc, est enseignant-chercheur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain en Belgique. Philippe Perchoc, l'une des forces de la Lettonie, c'est d'avoir développer certains secteurs porteurs comme celui des nouvelles technologies de l'information. Alors, l'agenda numérique, est-ce une priorité de la présidence lettonne ?
Oui, alors c'est une priorité notamment parce que en fait, en Lettonie, on imagine une bonne combinaison entre la réduction des dépenses publiques et l'agenda numérique. L'idée, c'est un peu comme en Estonie, de numériser une grande partie en fait de tous les papiers de façon à faire des économies, à rendre l'administration beaucoup plus simple et pour les Lettons et pour les gens qui voudraient investir en Lettonie. Donc il y a un lien entre les deux. Et par ailleurs, la Lettonie essaye d'attirer un grand nombre de compagnies dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, et y compris des entreprises russes qui aujourd'hui se relocalisent en Lettonie pour émettre vers la Russie. Il faut savoir que, y compris pendant la période soviétique, les Lettons ont une réputation d'être des sortes de géotrouve-tout, c'est-à-dire qu'il y a une grande tradition d'ingénieurs en Lettonie. En fait, une partie des Lettons qui étaient partis travailler à l'étranger aujourd'hui reviennent en Lettonie, réinvestissent dans le pays. Et donc, ils apportent aussi ce savoir-faire qui vient de l'étranger. Par ailleurs, il y a des mesures fiscales qui permettent facilement d'investir dans le pays. Il me semble que, selon les dernières statistiques que j'avais vues, en Lettonie, il faut 5 jours pour créer son entreprise.
La Lettonie, est-ce qu'elle est bien préparée pour assumer cette présidence de l'Union européenne ?
Bon, alors les Lettons, ça fait un bon moment qu'ils se préparent pour cette présidence, ça fait au moins 4 ans. Ils sont dans une situation qui est assez comparable en fait à la Lituanie qui a eu la présidence il y a 2 ans. Donc beaucoup investi dans sa présidence, beaucoup investi dans la préparation de ses diplomates, de ses fonctionnaires, notamment avec des cours de langue, avec le fait d'envoyer beaucoup de gens à Bruxelles voir comment ça se passait, demander aux autres présidences comment est-ce qu'elles avaient fait. Il y a eu aussi tout un volet de formation pour cette présidence. Donc je pense qu'ils sont assez bien équipés pour le faire. Par ailleurs, les Lettons ont plein d'atouts, et notamment celui de parler plein de langues.
Ils sont bien préparés. Ils ont un savoir-faire à mettre à la disposition de l'Union européenne. Ils ont aussi une autre caractéristique. La Lettonie, c'est le pays de l'Union européenne où vit la plus forte communauté russe, à peu près un quart de sa population. Et donc, elle regarde son grand voisin avec méfiance et elle veut que l'Union européenne s'engage plus à l'Est et développe ce qu'on appelle le partenariat oriental. Alors, est-ce que cela ne risque pas de crisper les Russes qui estiment, eux, que ce partenariat oriental ne tient pas compte de leurs intérêts stratégiques ?
Alors d'abord, en fait, la communauté des gens qui parlent le russe en Lettonie, ce ne sont pas des Russes, c'est des gens qui parlent le russe. C'est pas toujours la même chose, en fait, puisque l'immense majorité d'entre eux ont un passeport letton, sont lettons, votent pour les élections lettonnes et se sentent faire partie de ce pays. Ça, je pense que c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que le scénario qui s'est passé en Ukraine forcément inquiète un peu les autorités lettonnes. Et donc, contrairement à l'image qu'on peut en avoir parfois en Europe de l'Ouest, il me semble que les Lettons sont assez pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois avoir une politique qui ne renie pas sur les valeurs européennes et en même temps une politique assez pragmatique vis-à-vis de Moscou, aussi parce que le premier pays qui souffre de la crise économique aujourd'hui en Russie, c'est la Lettonie, puisque c'est un pays qui commerce beaucoup avec la Russie. Donc voilà, ils ont intérêt à la fois à respecter les valeurs et en même temps à ce que le partenariat avec la Russie permette à tout le monde de vivre en bonne intelligence.
Cette présidence lettonne saura-t-elle faire baisser la pression dans la région ?
Faire baisser la tension, ça dépend premièrement de la capacité des Lettons à mettre les Européens d'accord, pas tellement de leur attitude vis-à-vis des Russes. Donc ça dépendra beaucoup aussi de la manière dont vont évoluer notamment la diplomatie allemande dans les 6 mois qui viennent. On verra, en fait, je pense qu'un moment très important, ça sera les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 8-9 mai 2015. Donc là, on verra, c'est-à-dire, est-ce que les Lettons, les Européens et les Russes arriveront à se réunir autour de cet événement symbolique? C'est quelque chose qu'on verra, et à mon avis, c'est un des enjeux de la présidence qui vient.
C'était déjà aussi un enjeu de la présidence de la Lituanie.
C'est-à-dire que, oui, la Lituanie est très engagée dans le partenariat oriental. Ils ont presque réussi, c'est-à-dire que c'est juste au moment où le président ukrainien devait signer l'accord d'association avec l'Union européenne, que tout s'est enclenché en Ukraine et que ça a mal tourné. Mais finalement, aujourd'hui, cet accord d'association, il est signé, même si une partie de l'Ukraine échappe au contrôle du gouvernement de Kiev. Donc, bien entendu, les Lituaniens, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'ils n'ont pas totalement rempli leur objectif, mais il me semble que leur présidence, c'est une présidence ambitieuse et qu'elle a quand même montré qu'un pays de la Lituanie, c'est 3 millions d'habitants, était capable de piloter l'Europe seulement 25 ans après l'indépendance.
Ce sera le 19e pays à rentrer dans la zone euro. Alors, pourquoi la Lituanie veut-elle entrer dans la zone euro?
Alors déjà, tous les pays européens qui ont rejoint l'UE en 2004 se sont engagés à rejoindre la zone euro. Donc, à la limite, il n'y a pas d'alternative. Et la Lituanie était le pays qui voulait rejoindre la zone euro en premier. Donc en fait, déjà en 2007-2008, il y avait des négociations pour rejoindre la zone euro. Mais à ce moment-là, la croissance lituanienne était, c'est un peu paradoxal, trop forte. Et donc avait généré 0,2 points d'inflation en trop par rapport aux critères qui lui auraient permis de rejoindre la zone euro. Donc du coup, ils ont été empêchés de rejoindre la zone euro pour ces 0,2% d'inflation en trop. Et à ce même moment, la crise s'est développée, donc ils ont décidé d'attendre un petit peu. Et finalement, ils seront le dernier pays balte à rejoindre la zone euro, mais au départ, ils étaient précurseurs.
Est-ce que c'est une opportunité pour la Lituanie?
Oui, c'est sûr, parce que en fait, la monnaie lituanienne, le lita, c'était lié à l'euro depuis déjà très longtemps. Donc la Lituanie n'avait pas sa propre politique monétaire. Mais en même temps, la Lituanie ne participait pas aux négociations européennes vis-à-vis de l'euro. C'est-à-dire qu'ils appliquaient en fait un taux de parité entre l'euro et le litas, mais ils participaient pas à la définition de la politique de l'euro. Donc là, maintenant, bien sûr, c'est une opportunité de pouvoir participer aux réunions qui définissent la politique monétaire européenne.
Quels vont être les avantages pour la zone euro?
Alors, pour la zone euro, déjà, le premier avantage, c'est de montrer qu'elle est toujours attractive. Je pense qu'en ce moment, c'est pas un maigre avantage. Et puis par ailleurs, la Lituanie, c'est une économie assez dynamique, donc on espère en fait que ça va aussi permettre de faciliter les investissements dans ce pays.
Merci Philippe Perchoc. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, et que votre dernier livre, Correspondance européenne, est paru aux presses universitaires de Louvain. Au premier semestre 2015, la Lettonie préside l'Union européenne. Mais en 2014, sa capitale Riga a été la capitale européenne de la culture. On retrouve Daniel Desesquelles pour une rediffusion consacrée à la Lettonie et plus particulièrement à Riga, la capitale européenne de la culture.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à Riga, capitale de la Lettonie, capitale européenne de la culture tout au long de cette année 2014. Avant de vous présenter nos invités qui ont pris place à l'Institut français de Riga, un peu de géographie et d'histoire, nous avons posé nos micros tout au nord de l'Europe. La Lettonie est l'un des trois pays baltes, grande comme la Suisse, mais peuplée seulement par 2 millions d'habitants, dont environ 700 000 sont russophones, car la Lettonie, qui fut membre de l'Union soviétique, partage une large frontière avec la Russie. Le pays a reconquis son indépendance en 1991 avec l'éclatement de l'URSS. Depuis, la Lettonie a rejoint l'OTAN, l'Union européenne et à Riga, on paye ses achats en euros. Autant dire qu'en une vingtaine d'années, l'histoire de la Lettonie s'est écrite en accéléré. Carrefour de l'Europe à Riga part à la découverte de la Lettonie et des Lettons. Bonjour, Labienne Uma Bergman.
Bonjour.
Bonjour. Labienne on est Labienne.
Labienne.
Labienne, c'est difficile le letton.
Pour moi, c'est oui. Je suppose que c'est difficile.
Ah, mais quand on est letton de langue maternelle, évidemment, c'est plus facile. Mais pour les autres, c'est difficile. Yelena Vladimirskaya Zdravstvuyte.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lettonie, directrice du département d'études romanes, et on le devine à votre nom, russophone. Marco Nikolic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de Verdun. Vous êtes un jeune professeur à de français à l'université de Lettonie, d'origine serbe.
Oui, c'est ça.
Vous vivez en Lettonie
depuis 3 ans.
Et vous êtes membre d'une curieuse association qui s'appelle l'Association des jeunes francophones enthousiastes.
Oui, c'est ça. Je suis l'ex-président de cette association.
Timo Thompson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif de l'orchestre de chambre Sinfonietta, qui est l'orchestre de chambre nationale de la Lettonie.
Tout à fait.
Oui. Antoine Jacob, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant du quotidien La Croix pour les Pays-Bas. Et puis, Liene Luxa, elle est étudiante. Bonjour, Labienne.
Bonjour.
Et puis, nous écouterons tout à l'heure la chanteuse Kate Skindra et du groupe Story Zevele. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, car je l'ai déjà dit, c'est assez compliqué le liton. Unad Merman, je disais à l'instant que l'histoire de la Lettonie s'est écrite en accéléré, et comme les choses vont très vite, on a quelque peu oublié que le pays a connu en 2009 et 2010 une crise économique très violente, avec une récession d'une année sur l'autre de près de 20%, des coupes de 25% dans les budgets publics, et des salaires qui, du jour au lendemain, ont parfois été amputés de moitié. Alors, aujourd'hui, l'économie lettonne va mieux, on l'évoquera peut-être, mais on n'a pas en mémoire de grandes manifestations en Riga, comme on a pu en voir par exemple à Athènes en Grèce, un autre pays qui a connu une crise et qui est encore un peu dans la crise. Alors, si on les a pas vus, c'est qu'il n'y en a pas eu. Pourquoi les Lettons ne se sont pas révoltés ?
Il y a en fait 2 raisons principales que je vois. D'abord, en fait, le gouvernement qui appliquait les mesures d'austérité, quand on a emprunté l'argent des familles, c'était un gouvernement qui arrivait au moment en fait où la crise avait déjà commencé. Et la deuxième raison, je pense que quelque part, dans les souvenirs de tout le monde, il y avait les années 90, la fin de l'Union soviétique, on se souvient tous des queues qu'on a fait pour acheter du pain. Donc, on a connu pire et on s'est dit que, voilà, on va faire un effort en espérant que ça va aller mieux. Donc, si cette fois-ci, nous ne vont pas sortir de la rue, je pense que c'était une décision et pas juste la paresse.
Antoine Jacob, vous êtes un peu le français, vous observez la Lettonie, vous vivez en Lettonie depuis de nombreuses années, donc vous êtes un observateur privilégié. Tout ce qu'on vient d'entendre là, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Effectivement, sans doute assez peu extraverti, mais assez revendicatif entre eux. Ils aiment bien quand même discuter beaucoup de la crise et des conséquences, mais c'est vrai que ça se traduit pas tellement dans la rue, ni même les débats publics sont relativement modérés, voire un peu ennuyeux. Ça n'empêche pas, d'une part, de vraiment en discuter entre amis et dans les familles, ça y va, là, par contre, je trouve. Et puis, sinon, il y a une autre façon de manifester, c'est, on va peut-être en reparler, c'est aussi de quitter le pays, c'est d'aller travailler ailleurs, parce que vu que les salaires ont énormément chuté, parfois de 50%, vu que le chômage, lui, est monté jusqu'à 20%, il y a des régions même où c'était au-delà.
Aujourd'hui, c'est environ 12% à peu près.
Oui, c'est retombé aux alentours de 11-12%. Voilà, donc pas mal de gens ont décidé finalement, plutôt que de rester ici, de revendiquer certaines choses, d'aller tout simplement travailler ailleurs et de manière assez pragmatique, donc trouver un emploi au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède.
Et même parfois en France. C'est vrai qu'il y a 2 millions de Lettons et environ 10% de la population a quitté le pays, ce qui est évidemment très important.
Oui, ce sont des statistiques, elles sont assez difficiles à vérifier, mais en tout cas, depuis, on va dire, la première, enfin, l'accession à l'Union européenne, où il y a pas mal de Lettons qui ont pu aller travailler beaucoup plus librement dans toute l'Europe, l'Union européenne, donc il y a un phénomène qui frappe aussi d'ailleurs les autres pays baltes d'ailleurs.
Alors quelle est la situation des russophones aujourd'hui ? J'ai dit qu'ils étaient environ 700 000 hein, à peu près sur 2 millions d'habitants. Alors russophone, ça ne veut pas dire titulaire d'un passeport russe, pas du tout. C'est des citoyens qui habitent la Lettonie
et
qui ont le passeport letton, mais pas tous, et qui parlent le russe majoritairement, en tout cas en famille notamment, entre eux. D'ailleurs, il suffit de, quand on se balade dans les rues de Riga, on entend alternativement le russe et le letton à la terrasse des cafés et dans les rues. Riga, ville pratiquement 50-50, hein, 50% de lettons, 50% de lettophones, on dit des lettophones, et 50% de russophones, avec un maire qui est un maire russophone. Alors, quelle est la situation des russophones en Lettonie? Comment vous la vivez-vous, Yelena Vladimirskaya?
Bon, d'abord, il faut dire que la communauté russe, c'est une communauté très hétérogène, très éclectique. Il y a des gens qui sont venus, ou dont les ancêtres sont venus de tous les coins de l'ex-Union soviétique. La particularité de la situation des russophones ici, ce qui les unit en fin de compte, c'est que au moment de la libération de la Lettonie, ils se sont réveillés du jour au lendemain dans la peau de l'immigré. Donc, sans avoir changé de place de leur vie, sans avoir déménagé, comme ça. Disons, lundi, à partir de 8h, on est tous devenus immigrés. Et puis, donc, c'est, culturellement, et sur le plan identitaire, disons, c'est une situation assez intéressante. Parce que, disons que l'identité, ce n'est plus une affaire d'héritage, mais une affaire de construction. Donc les Russes, les russophones, disons, ils étaient obligés de se construire, de construire leur identité, de se poser les questions qu'ils ne s'étaient pas posées peut-être dans un autre contexte, dans une autre situation, de se poser la question qui je suis, où j'habite, est-ce que c'est le pays où je veux vivre, si oui, alors comment, etc. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, il y avait des réponses. Il n'y avait pas qu'une seule réponse.
Une des façons de devenir letton pour un russophone, c'est de parler le letton et donc la plupart du temps de l'apprendre, car évidemment au temps de l'Union soviétique, c'était le russe qui était majoritairement parlé ici en Lettonie.
Oui, tout à fait. Parce que je suis allé à l'école russe à la base, et par contre je me considère tout à fait letton, et je suis tout à fait letton. Même maintenant, si je vois ma génération avec des amis russes, parfois je parle que letton avec eux, et en fait le russe j'utilise que dans ma famille. Ça se fait par l'enseignement, bien sûr. Je suis dans le milieu letton dans mon travail, et toute l'information que j'utilise, en fait, c'est soit en anglais, soit en letton. Un peu en russe, mais c'est pas toujours crédible. Et en tout cas, l'enseignement, en fait, l'école fait une grande partie comment s'identifier, est-ce que je suis russe ou letton, et les familles, bien sûr, et les familles.
Alors, Antoine Jacob, il y a les lettons, évidemment, qui ont un passeport letton, les Russes qui ont passé un examen de langue, de connaissance de l'histoire, de la culture et notamment de l'hymne national. Et puis il y a les autres, ceux qui pour des raisons diverses ne parlent pas le letton et donc parlent uniquement le russe, et qui eux n'ont pas ce passeport letton, n'ont pas non plus le passeport russe ou rarement, et qui sont ce qu'on appelle des non-citoyens. Qui sont un peu ces non-citoyens? Comment ils se situent dans la société lettonne?
Ce sont des gens qui ils représentent environ 13% de la population. Tout de même, ils étaient beaucoup plus nombreux en 91, évidemment, puisque toute personne arrivée en Lettonie pendant l'occupation soviétique s'est vue attribuer ce statut de non-citoyen, et donc c'était un peu à chacun de décider si oui ou non on allait essayer au moins de devenir citoyen letton. Et certains ont trouvé que c'était, par principe, ils ont refusé de le faire en estimant que ils ont eux aussi contribué à l'économie locale, et ils ont eux aussi contribué à un moment au retour à l'indépendance. Hein. Donc ils ont estimé que c'est, par principe, non, je ne deviendrai pas citoyen. Il y en a d'autres qui, de toute façon, sont trop âgés. Ils vivent entre eux, ils regardent la télévision russe, ils ont les journaux russes. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à devenir citoyen, si ce n'est celui peut-être de voter. Mais comme, de toute façon, la classe politique ici, on la regarde un peu avec méfiance, de toute façon. Donc, ce sont des gens qui préfèrent même, à la limite, garder ce statut de non-citoyen pour pouvoir aller facilement en Russie, où ils ont souvent encore de la famille, pour certains d'entre eux, en tout cas. Donc, voilà, ça, c'est un cas de figure assez important parmi les non-citoyens.
Mais bien évidemment, avec le temps, le nombre de ces non-citoyens diminue d'année en année, par définition.
Par définition, mais il y a aussi parmi les jeunes des cas où les parents refusent d'aller faire la démarche pour demander la citoyenneté pour leur enfant. C'est aux enfants à ce moment-là de décider à partir de l'âge de 15 ans. Il y a aussi des changements, des amendements législatifs qui permettent aujourd'hui à faciliter cette acquisition de la citoyenneté.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos, mais on se retrouve dans 3 minutes, très exactement, à Riga, capitale de la Lettonie, capitale européenne de la culture. À tout de suite.
Lettonie assume la présidence de l'Union européenne depuis le 1er janvier. Mais en 2014, Riga était la capitale européenne de la culture. Daniel Dezesquiel était sur place en juin dernier.
Spotkania europejskie.
Kuzynią tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
Daniel Dezesquiel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, toujours à Riga, en Lettonie. Je vous représente rapidement nos invités, Una Bergman, doctorante à Sciences Po Paris, et Elena Vladimirskaya, professeure à l'Université de Lettonie et directrice du département d'études romanes. Marko Nikolic, professeur de français à cette même Université de Lettonie, et membre de l'association des jeunes francophones enthousiastes, j'ai plaisir à le souligner. Timur Thompson, directeur exécutif de l'orchestre de chambre Sinfonietta, Liene Luxa, étudiante, et Antoine Jacob, journaliste correspondant du quotidien La Croix pour les Pays-Baltes. Je recommande une fois de plus son blog Nordique et Baltes, tout au pluriel. Et puis à la fin de l'émission, on écoutera Kate Skindra et le groupe Sturi Zevele. Alors, la crise ukrainienne et l'activisme russe alimentent les journaux, et notamment les éditions d'actualité de RFI. Comment est vécue cette crise ici en Lettonie, Una Bergman?
Je pense que la crise est évoquée avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup d'incertitude. Parfois avec une exagération, à mon avis personnel, de la part des journalistes qui nous faisaient croire que la Russie va envahir la Lettonie le lendemain. Mais je peux comprendre aussi, comme l'indépendance de la Lettonie est très récente et nous sommes membres de l'OTAN, Union européenne, à peine il y a 10 ans. Donc ça fait que nous ne sommes pas sûrs à quel point nous pouvons compter sur nos alliés. Et à quel point nous pouvons être sûrs que les plans du président Poutine ne concernent pas aussi les trois pays baltes.
Alors, Timur Thompson, vous qui êtes russophone d'origine, hein, mais qui êtes letton, vous l'avez dit dans la première partie de l'émission, est-ce qu'il faut, lorsqu'on est letton, on doit avoir peur de la Russie?
Je pense que oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est... Si Una qui a dit que bon, c'était peut-être exagéré, je pense pas du tout. Et en tout cas, on a compris un jour que notre liberté et ce qu'on dit la liberté qui en a que 20 ans peut être interrompue dans un jour. Et ça nous a fait peur et ça nous a fait revoir l'histoire et nous a fait comprendre est-ce qu'on peut compter sur nos alliés. Ça c'est vrai.
Yelena Vladimirskaya, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que les Lettons doivent avoir peur ou non de la Russie?
Comme j'ai déjà dit, il n'y a aucune homogénéité dans l'attitude des russophones vis-à-vis de la crise en Crimée. Et moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec Una que c'est plus qu'exagéré de la part des journalistes, de la part des hommes politiques aussi, parce que l'histoire de Crimée, l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, elle est extrêmement compliquée, longue, et ça n'a rien à voir avec l'histoire avec Lettonie. Ceci dit, je peux comprendre la crainte d'une partie de nos citoyens. Parmi les russophones, je sais que là, il y en a qui ont un parti pris, qui sont très engagés, parce qu'ils ont aussi de la famille, soit en Crimée, soit Odessa, soit ailleurs. Il y en a d'autres qui sont très critiques par rapport à la politique de Poutine. Voilà.
Alors, je m'adresse maintenant à mon confrère journaliste. Est-ce qu'ils exagèrent, les journalistes lettons, lorsqu'ils parlent de la crise ukrainienne, Antoine Jacob?
Les lettons, je pense que oui, ils ont un peu exagéré, notamment en imaginant déjà quels conseils psychologiques il faudrait pouvoir prendre en cas d'invasion. Enfin, des choses comme si les chars étaient de l'autre côté de la frontière et n'allaient pas tarder à arriver. Là où, à mon avis, il y a sans doute une réalité, c'est que... Pour le président Poutine, les Baltes sont déjà dans ses plans quelque part. On ne sait pas vraiment de quelle manière il compte les utiliser. Il les a déjà utilisés auparavant. Il a toujours les Pays-Baltes quelque part dans son espace mental. Je ne pense pas effectivement qu'il ait vraiment intérêt à tenter une aventure militaire jusqu'ici, une expédition. Ça me paraît quand même effectivement... à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, exclu, mais en revanche, il a plein d'autres moyens pour faire valoir son influence.
Quelles conséquences ça peut avoir, un petit peu, ce qui se passe ici en Lettonie, Antoine Jacob? Par exemple, évidemment, la Lettonie qui est membre et de l'Union européenne et de l'OTAN est protégé par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui veut dire qu'évidemment, si un pays était attaqué, c'est tout l'ensemble des pays de l'Alliance qui viendraient à son secours. Ce qui veut dire que la Lettonie a, je dirais, sous-traité les problèmes de défense avec des budgets de défense totalement dérisoires. Est-ce que c'est en train de changer ?
Oui, mais tout doucement. C'est vrai que ce sont c'est un pays de 2 millions d'habitants. Vous avez un voisin russe à côté qui lui investit énormément dans la défense. Il y a peut-être, comme se sont dit les stratèges lettons, autant à ce moment-là contribuer à des petites forces d'intervention de l'OTAN à droite à gauche dans en Afghanistan ou ailleurs, et faire assurer notre défense par effectivement la dissuasion, on va dire, de l'article 5 et de l'OTAN, et aussi la présence d'avions d'ailleurs de l'OTAN dans une base dans le nord de la Lituanie.
Est-ce que la Lettonie est très dépendante de la Russie? Est-ce que cette dépendance s'est un peu allégée au cours des 20 dernières années? 100% du gaz utilisé en Lettonie vient de Russie, Unai Bergman.
Oui, c'est ça, et ça c'est un grand problème de Lettonie et des autres pays baltes, que cette dépendance de la gaz russe. On a eu des projets de construction d'une centrale nucléaire en Lituanie, ça n'a pas marché. Les terminaux de gaz, pareil, construits ensemble par les trois pays baltes. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord comment procéder, mais c'est vrai que c'est un vrai problème et qu'il faudra résoudre dans les 10 ans à venir.
Alors en même temps, les Russes sont très très présents. Alors je ne parle pas des russophones, Yelena Vladimirskaya, mais les Russes sont très présents. On sent qu'il y a des investissements russes, que les banques ici à Riga accueillent de l'argent russe. Alors l'argent russe, il faut toujours se méfier, hein, il n'est pas toujours très blanc. Il y a une grande dépendance de ce point de vue-là, de l'économie lettonne à l'égard de la Russie. Qui veut répondre, peut-être Antoine Jacob?
Effectivement, la Lettonie est un pays de transit, donc il y a beaucoup de biens qui passent à travers le pays, dans un sens comme dans l'autre. Il y a une certaine crainte aussi des conséquences que pourraient avoir des sanctions plus élevées contre la Russie, des sanctions qui seraient décidées par les États-Unis et leurs alliés. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent, c'est sûr.
Si la situation devait se dégrader en Ukraine, du fait de ce qu'on a pu imaginer, on a vu avec l'annexion par la Russie de la Crimée, est-ce qu'il y aurait un risque de fracture entre les deux populations, Yelena Vladimirskaya?
De la Lettonie, je ne pense pas, non. Même au contraire, paradoxalement, je pense que on peut entendre de plus en plus de discours de la part des hommes politiques lettons qui insistent sur le fait que les Russes d'ici ne sont pas les Russes de la Russie, qu'il faut distinguer. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un signe d'égalité entre la langue d'origine et une partie pris politique.
Une Aberman sur ce même thème, est-ce qu'il y a un risque de fracture si la situation devait s'aggraver du côté de l'Ukraine?
Non, je ne le pense pas, parce qu'en tout cas, ce que je vois dans la société, ce que je vois autour de moi avec mes amis qui sont des familles russophones, c'est exactement comme Yelena elle a mentionné, que la langue d'origine, ça ne détermine pas les convictions politiques.
Antoine, je peux vous y réagir?
Il faut quand même rappeler qu'il y a aussi quand même une frange de membres de la minorité russe qui estime que l'annexion de la Crimée c'est une bonne chose et que à la limite, pourquoi pas, si un jour l'opportunité se présentait, un petit ton légèrement revanchiste dans certaines revendications ou en tout cas slogans lancés dans les rues de Riga récemment, dans quelques petites manifestations qui rassemblent pas plus de quelques dizaines de personnes, mais qui malgré tout, dans un paysage où il y a très peu de manifestations, forcément dès qu'il y en a une, on l'entend un peu plus que s'il y en avait une tous les jours.
Est-ce que cette fragilité de l'indépendance, elle est perçue en permanence par tous les Lettons? C'est-à-dire, cette identité nationale, elle est fragile. Qui veut répondre à cette question? Una Bergman, décidément.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans notre esprit. Et je vois, en fait, je ressens ça beaucoup en France, quand je parle avec les gens de mon âge, des Français. Pour eux, l'existence de leur État, l'État français, c'est quelque chose qui vient de soi. Je pense que pour nous, il y a cette inquiétude permanente que ce pays et cet État peut cesser d'exister. Et ça explique aussi notre angoisse par rapport à la Russie.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe à Riga. Riga, capitale de Lettonie, capitale européenne de la culture. Alors, on l'a dit, la Lettonie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN depuis peu de temps, 2004. Hein, ça fait juste 10 ans, une Habermann, vous confirmez. Et ce que l'on peut constater, en tout cas, un visiteur comme moi est surpris, c'est finalement le rapport de la Lettonie et des Lettons par rapport à l'Union européenne. L'euro est la monnaie utilisée depuis le 1er janvier de cette année en Lettonie, mais le choix s'est fait à reculons, sans enthousiasme, mais s'il y avait eu un référendum, il aurait été probablement négatif. Il y a eu des élections européennes récemment, 70% d'abstention, c'est beaucoup plus qu'en France qui déjà n'a pas des taux de participation exceptionnels. Quel est le rapport des Lettons à l'Union européenne et qu'est-ce que ça veut dire pour un Letton avoir adhéré à l'Union européenne? Qui veut répondre? Une Habermann?
Les relations entre l'Etat et l'Union européenne sont des relations complexes. D'un côté, c'est vrai que, comme beaucoup d'Européennes, l'Etat, parfois, elle ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, comment fonctionne le Parlement, quels sont les enjeux des élections. On peut critiquer beaucoup des choses qui sont liées à le fonctionnement de l'Union européenne. On critique souvent certaines politiques appliquées en Lettonie. Mais toutes ces critiques, je pense que ce sont des critiques qui ne mettent pas en cause notre appartenance à l'Union européenne. Les choix d'appartenir à l'Europe, c'était un choix qui était fait il y a très longtemps, vers la fin de l'Union soviétique, pendant les mouvements pour l'indépendance. Et donc voilà, mise en cause de certaines politiques de l'Union européenne ou l'abstention pendant les élections, c'est pas une mise en cause de l'idée que nous appartenons à l'Europe.
Antoine Jacob.
Oui, quant au passage à l'euro, quand on a entendu pendant des années à la télévision, quasiment tous les jours, que ça va mal dans la zone euro, que c'est la crise un peu partout, et qu'on vous dit, voilà, ben, vous allez devoir y aller vous aussi, et qu'en plus on aime bien nos billets de banque, qu'on avait ces beaux petits billets avec les symboles de la nature dessus, les chênes, voilà, les figures un peu mythologiques. Donc c'est les billets de banque ici, ils ont été réintroduits qu'en 1993, si je me rappelle bien. Les abandonner de nouveau à peine 10 ans plus tard, ça fait un petit pincement au cœur. Cela dit, une fois que voilà, on est passé à l'euro, les Lettons sont quand même assez pragmatiques là aussi. Encore une fois, je trouve. Enfin, je n'ai pas l'impression non plus qu'il y ait un sentiment anti-européen. Et si les gens ne sont pas beaucoup allés voter le jour des élections européennes, c'est qu'il faisait très très beau ce jour-là. La nature appelait tout le monde. Il fallait aller dans les champs. Et
c'est le syndrome en France. On dit le syndrome du pêcheur à la ligne, c'est ça.
Voilà.
C'est la version pêcheur à la ligne lettonne. Timothy Thompson. Russophone, letton, et par définition européen, c'est dans cette logique.
En fait, parfois, je pense que nous sommes, les Lettons sont plus européennes que l'Europe de l'Ouest, en regardant les résultats des élections, parce que même chez nous, les partis les plus nationalistes ne vont jamais dire qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Donc, bien sûr, en 2004, c'était très important pour nous de se définir où est-ce qu'on va aller, parce qu'à côté, il y a une union qui, bon, il n'existait plus, mais l'Union soviétique et l'Union européenne, c'était important de faire ce choix, où est-ce qu'on va. C'était fait au début des années 90, et bien sûr, bon, pour moi, comme moi j'avais 16 ans quand on a entré à l'Union européenne, et c'est un choix très bon.
On ne dit pas, est-ce qu'on entend, bon, on était sous la domination de Moscou, maintenant on est sous la domination de Bruxelles, est-ce qu'on entend des choses comme ça ici en Lettonie? Antoine Jacob, ou...
Oui, on peut l'entendre, ouais, ça, on peut l'entendre par moments. Je sais qu'il y a par exemple, des gens qui regrettent, par exemple, que suite à l'entrée dans l'Union, on ait dû fermer les sucrières. Bon, il y a toujours des choses qui ont changé, c'est sûr, et il faut s'adapter au marché unique européen. Ça, c'est la règle du jeu, donc.
Lene Lutzka, quand on est jeune, c'est votre cas, vous avez la vingtaine d'années, une vingtaine d'années, comment on envisage son avenir? Plutôt en Lettonie, mais avec une économie difficile, mais qui va quand même de mieux en mieux au cours des dernières années, ou au contraire, on se dit, on a un passeport, on va l'utiliser, on va essayer de s'installer ailleurs, évidemment, dans l'Union européenne. Comment on voit les choses?
Moi, je crois que beaucoup de gens voient meilleure possibilité d'étudier quelque part d'autre. Mais la chose avec l'éducation en Lettonie, c'est que c'est plutôt théorique. c'est plutôt la théorie. Et je sais que beaucoup de gens qui veulent faire plutôt des choses pratiques, ce sont des gens qui partent. Donc,
mais vous, Lélie, vous envisagez votre vie professionnelle. À un moment, il va falloir travailler, gagner un peu d'argent, et des euros en l'occurrence. Vous envisagez de les gagner plutôt ici en Lettonie, ou plutôt de faire votre carrière et votre vie professionnelle comme en gros 10% des Lettons qui ont choisi d'émigrer?
Pour les raisons économiques, peut-être quelque part d'autre, mais oui, peut-être oui, quelque part en France. Ou...
Ce qui pose la question, est-ce qu'on a, quand on est jeune, est-ce qu'on a confiance dans l'avenir du pays? Qui veut répondre à cette question, Yelena Vladimirskaya?
Vraiment, je trouve ça vraiment décevant que les meilleurs étudiants, ils ont tendance à partir. Et c'est pas seulement... Bon, je comprends que j'ai étudié à l'université, j'ai étudié à Paris 3, j'ai étudié à la Sorbonne. Donc bien sûr, le niveau d'éducation, il est absolument excellent. Je ne remets pas en
question... Mais vous êtes revenu.
Oui, ben, je ne suis jamais partie, en fait. je pense que serait vraiment bien si on pouvait... faire revenir nos étudiants, nos ex-étudiants, et de les faire travailler pour nous aussi.
Riga, capitale européenne de la culture 2014. J'ai pour ma part senti peu d'enthousiasme de Riga 2014. Un touriste peut séjourner une semaine à Riga sans se rendre compte de l'existence de Riga 2014. Alors le point d'orgue, je crois que ça va être un concert de chants vocaux qui va réunir plusieurs milliers de personnes, et ça sera en juillet. C'est bien ça?
Ah oui, nous allons avoir la compétition des chorales en Lettonie, c'est mondial. Et on compte d'avoir dizaines, mille de participants.
Alors il faut dire que la Lettonie est le peuple chantant et qu'il partage cette caractéristique avec l'Estonie, hein, qui se présente toujours aussi comme le peuple chantant.
Et la Lituanie, vous direz
la Lituanie. Et la Lituanie, ce qui fait quand même qu'il y a, il existe une similitude, une vraie caractère commun des peuples baltes, même s'il y a des différences qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ici. Alors cela doit tout de même pas occulter le fait que Riga est une belle ville, qu'elle est en 2014, qu'elle est en 2013 et qu'elle le restera en 2015. Une vieille ville médiévale, un centre-ville très art nouveau, hein, c'est très agréable de se promener dans les rues de Riga. Une capitale à taille humaine, 750 000 habitants, comme on dit ici à Riga, toujours tout près. Hein. Donc la conséquence, c'est qu'on fait tout à pied, qu'à la fin de la journée, on est relativement fatigué. Alors cela dit, si vous avez envie de vous aérer, rien de plus simple, direction Jurmala, la grande station balnéaire lettonne sur la mer Baltique. On y accède en train en moins de 30 minutes. Et arrivé sur place, ce sont les senteurs de pins, les kilomètres de plages de sable blanc et la douceur de la mer Baltique qui, tout de suite, vous saisissent. Mais à Jurmala, comme partout en Lettonie, l'histoire vous rattrape, car Jurmala était la destination favorite de la nomenclature soviétique.
Il y a des bâtiments délabrés, et même s'il y en a de très beaux, on peut bien voir le contraste. À l'époque soviétique, c'était une station balnéaire. Et pour les Russes d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ils sont souvent ici l'été. Pour les Lettons, c'est aussi un lieu très important depuis des générations. Ils y vont tout le temps.
Tout a changé. Tout est devenu plus beau et désormais mieux entretenu. C'est comme ça dans beaucoup de villes lettonnes, puisque l'Union européenne aide et donne des subventions. Mais en contrepartie, c'est maintenant beaucoup plus cher, donc il y a beaucoup de gens riches et d'entrepreneurs qui viennent de Moscou et de Russie en général. Il y a toujours des Lettons qui viennent en train pour passer le week-end, mais ce n'est plus la ville où les ouvriers vivaient avant. Il y a des hôtels, des restaurants, tout est devenu plus cher.
Tout est devenu plus cher et bien sûr on paye maintenant en euros. Alors, sur les bords de la mer Baltique, on peut se promener. J'ai eu plein de gens qui se promenaient, j'ai pas vu beaucoup de gens qui se baignaient. On se baigne dans la mer Baltique, et là, sourire autour de la table. Qui s'est baigné dans la mer Baltique autour de cette table?
Tout le monde, je pense.
tout le monde. Oui. Mais... Mais c'est difficile, non, de plonger en Saint-Jacob?
Non, c'est pas difficile. D'abord, il faut surtout beaucoup marcher dans l'eau, parce qu'on a, on a pied quasiment tout le temps, à moins de, voilà, de marcher au moins peut-être un demi-kilomètre, voire.
Ah oui, tout de même.
Donc, et alors, du coup.
On attend, du coup, de s'acclimater.
On attend, voilà, voilà, on s'adapte, et petit à petit, à la fin, on y va, et on plonge, et franchement, c'est bon, hein, c'est. Elle est pas, c'est froid, mais c'est pas beaucoup plus froid que la Méditerranée un jour de Mistral.
Yelena, c'est froid.
Oui, c'est très froid. Enfin, c'est... Ça dépend, hein, mais pour moi, c'est très froid.
Donc, quand on s'y baigne, on ne reste pas très longtemps dans l'eau. C'est... Je dois en conclure cela, Una.
Je pense que vraiment, c'est très. Je pense que la plupart des Lettons, ils se baignent dans la mer Baltique facilement. Après, c'est vrai que moi aussi, personnellement, j'ai froid. Mais je pense que mes compatriotes, il y en a beaucoup qui sont plus forts que moi. Et
mais ça fait partie de l'honneur national de se baigner. Exactement. Dans les mers Baltiques.
C'est
comment?
C'est un défi.
C'est un défi permanent. Alors, le passe-temps des Lettons, plusieurs fois le mot est revenu, la nature, la forêt. Qu'est-ce qui passionne les Lettons? Chaque Letton a une petite maison, enfin en russe on dirait une datcha, je ne sais pas si on emploie le mot, où on se ressource, c'est la passion. Ce qu'on a, comme en Russie, la passion des champignons, la passion de la cueillette des baies, qu'on appelle chez nous plutôt les fruits rouges, la myrtille, la mûre. Est-ce que ça forme, c'est une partie de l'esprit letton, ce que j'évoque à l'instant, Timur Stamsons?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord qu'on est très lié à la nature, et ça, on peut le voir dans la littérature, dans l'histoire, qu'un letton ne sort pas de la ville. Il sort d'une maison qui est à la campagne. Et bien sûr, aussi dans le folklore, ou soit aussi le monnaie qui était là, on a représenté aussi, la nature était représentée sur les monnaies. Ça, c'est évident.
Yelena, Jenny Mascaya, vous avez une petite maison quelque part?
Moi, non. mais
vous avez beaucoup d'amis qui ont...
Oui, j'ai beaucoup d'amis qui en ont. Et puis, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des fortes traditions païennes aussi, pour les fêtes et dans l'esprit aussi. Bon, je pense que c'est un peuple qui est très lié à la nature, effectivement. Il y a un rapport intime à la nature, je veux dire.
Les fêtes païennes, ça veut dire, par exemple, beaucoup de feux de bois,
oui,
de choses...
Oui, je crois que c'est même dans les noms des fêtes, cela se voit, dans la façon dont on traduit
Pâques,
ouais. Ou Noël, par exemple.
C'est vrai que tout le monde me dit, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, on n'aura pas le temps de l'aborder, que le pays est particulièrement un des pays les plus athées qui soit, avec la République tchèque. Qui veut dire un mot là-dessus, Anton Jacob?
Peut-être pas athée, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a tendance à, enfin, se souvenir des vieilles croyances d'antan et à les entretenir, parfois sur le mode un peu de la plaisanterie, mais il y a souvent beaucoup plus de sérieux. Pour peu qu'on ait une grand-mère qui ait vécu un peu dans la forêt, dans l'est du pays, ou quelque part en près d'un lac, et bien forcément, ça se transmet d'enfant en enfant, et je trouve que c'est quelque chose d'assez marquant dans ce pays et assez touchant. Oui, je dois dire.
Antoine Jacob, c'est vous qui avez eu le mot de la fin avec cette notion de mystère, de découverte de la Lettonie. Donc, venez à Riga, venez en Lettonie en 2014 ou plus tard. Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe ici à Riga. Grand merci à l'Institut français qui nous a accueillis très, 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 très gentiment. Un grand merci spécialement à Denis Duclos et à Flori Baelen. Sur la page internet de l'émission, plein de choses vous attendent, notamment les références de nos invités. Vous pouvez réécouter cette émission via Internet et via les applications mobiles et tablettes de RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On va se quitter avec Kate Skindra et une toute petite partie du groupe Story Zevele. On va les écouter. Je rappelle le nom de leur album qui vient de sortir, qui s'appelle Glabrit et que l'on trouve très facilement sur Internet. Merci à tous.
Kur tad es varu tev prasīt, kur tad neļaut tev iet, tikai sapnīši lido, pulcējas vienu viet, tikai sapnīši lido, pulcējas vienu viet. Masi pavisam basi no augstuma sārti un slīdi, mazliet mīļāku tevi, pavisam citādu dzīvi. Mazliet
es varu tev prasīt, kur tad neļauj tev iet? Tikai sapnī šī lido, pulcējas vienu viet. Tikai sapnī šī lido, pulcējas vienu viet. Mazi pavisam basi no augstuma sārtiem stīvi. Mazliet mīļāku tevi, pavisam citādu dzīvi. Mazi pavisam basi no augstuma sārtiem stīvi. Arvien grūtāk vainas cīst, arvien ciļāk dzīves sakā, arvien grūtāk kādu mīst.
Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Guillaume Munier pour la prise de son et la mise en onde. Vous pouvez nous retrouver sur la page de l'émission via RFI.fr, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Nous vous retrouvons avec Daniel Desesquelles la semaine prochaine. Au revoir.